CFM, en Tarn-et-Garonne. Le MAG.
Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous dans ce MAG dans lequel on fera le détour par Bruniquel pour la deuxième partie pour une exposition à voir à l'Office de Tourisme, exposition immersive intitulée Bruniquel à travers les âges. Mais en première partie de ce MAG, on vous parle d'orgue en compagnie de l'organiste et professeur de musicologie à la fac de Toulouse, Gilles Vessière, bonjour.
Bonjour.
Et on parle d'orgue parce que vous allez proposer une masterclass ce week-end, une masterclass d'orgue à Saint-Antonin. Des cours donc proposés par l'association Tarn-et-Garonne Agriculture avec le Pays d'Art et d'Histoire du Pays Midi-Quercy, l'association des Amis de l'Orgue Puget de Saint-Antonin. Vous allez jouer donc sur cet orgue. Vous allez jouer quoi et pour qui ?
Alors, l'intérêt d'une masterclass, qui est un mot qui peut faire un peu peur,
oui,
c'est justement que les autres jouent, que ce ne soit pas moi. Et donc, chacun est invité à venir jouer. Donc, on a un peu réfléchi à cet événement sous deux aspects. En fait, il y aura deux moments, un le matin et un l'après-midi. Et donc, le matin, c'est un moment qui est adressé plutôt à tous les musiciens en général, tous ceux qui sont vraiment désireux de connaître l'orgue. Alors, il y a peut-être d'un côté les pianistes, ceux qui ont l'habitude d'un instrument à clavier et qui vont vouloir essayer de jouer sur un orgue et qui vont pouvoir éprouver un petit peu les différences qu'il y a entre leur instrument et l'orgue, parce que c'est pas exactement la même manière de jouer et le résultat sonore est aussi différent. Et donc ce que j'aimerais montrer dans ce moment-là, c'est que l'orgue est un instrument qui permet d'adapter la musique d'autres instruments à clavier, donc le piano, mais c'est aussi un instrument qui permet de transcrire et d'arranger des partitions pour toutes sortes d'ensembles, que ce soit des petits ensembles de musique de chambre ou bien par des morceaux d'orchestre, tout simplement.
Parce que quoi ? Parce qu'il a plusieurs sons différents. On peut jouer tout un orchestre avec un orgue.
Tout à fait. En fait, le principe de l'orgue, c'est qu'il y a, si vous voulez, un ensemble de rangs de tuyaux qui correspondent comme à des instruments différents et que l'on peut appeler par toutes sortes de boutons qui sont à la console, le lieu où on joue de l'orgue. Et par ce moyen, on peut reproduire un petit peu des sons d'un orchestre. Et comme c'est un instrument à clavier, c'est donc un instrument polyphonique, on peut jouer plusieurs sons en même temps. Et donc, on peut faire ce qu'on appelle une réduction et jouer sur le même clavier les sons de plusieurs instruments. Et donc, c'est ce qu'on essaiera de faire aussi le soir pour le concert qui est prévu à l'issue de la masterclass.
Oui, on va en reparler. Mais avant ça, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Avec l'orgue, on joue donc avec ses pieds, avec ses deux mains et avec ses quatre organes. Hein. On peut donc faire tout un orchestre.
Oui, on peut faire tout un orchestre. Il ne faut pas oublier que l'orchestre, il est là pour colorer, pour timbrer un petit peu des sons. Mais quelquefois, vous avez plusieurs instruments qui jouent les mêmes sons. Et donc, à l'orgue, on va pouvoir, avec une seule note, jouer plusieurs sons en même temps grâce au système des jeux de tuyaux.
Et donc, pendant qu'on appuie sur les notes, il y a l'autre main qui tire et qui pousse ?
Idéalement, il vaut mieux avoir un assistant à côté qui va tirer et pousser pour rajouter, enlever des jeux et donc enlever des instruments. Comme dans un orchestre, il y a des moments où l'ensemble de l'orchestre joue et puis des moments où seulement quelques instruments jouent. Il va y avoir peut-être des jeux solistes. Donc à l'orgue, un jeu soliste, mais à l'orchestre, un instrument soliste qui va se dégager de l'orchestre. Et ça, on va pouvoir le reproduire aussi à l'orgue grâce au fait qu'il y a plusieurs claviers. Et donc, on peut avoir un clavier d'accompagnement et un clavier avec un instrument soliste.
Un instrument de musique pour schizophrène, hein, quand même, l'orgue. On va pouvoir donc s'y jeter un petit peu, vouloir essayer, parce que c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir jouer sur un orgue, tout simplement.
Alors, ça devrait être donné à tout le monde. Moi, c'est ce que je pense. L'orgue, c'est un instrument qui est propriété publique. C'est la propriété de la mairie, en l'occurrence. Et donc, c'est un instrument qui devrait être accessible à tous. Et par le moyen de cette masterclass, entre autres, mais par d'autres événements aussi, moi j'essaye de rendre accessible cet instrument et que chacun puisse essayer et vraiment jouer, non pas seulement venir écouter quelqu'un qui serait très fort et qui jouerait un super concert, mais aussi d'essayer soi-même. Et je pense que c'est comme ça qu'on fait évoluer aussi notre vision de l'instrument. Dans l'histoire de l'orgue, souvent l'écriture pour cet instrument a avancé et progressé grâce à des compositeurs qui n'étaient pas organistes. parce qu'ils avaient une vision différente de la musique qui venait d'autres instruments, de l'orchestre, du piano. Et en jouant à l'orgue, eh bien, ils ont essayé de reproduire des choses qu'ils avaient dans leur tête à leur instrument, au piano, à l'orchestre, etc. Et du coup, ils sont sortis un petit peu des sentiers battus qui étaient ceux des organistes pur jus. Et donc, moi, je crois beaucoup à ça, au fait qu'il faut que d'autres musiciens que les organistes viennent jouer de l'orgue, c'est super important.
Ça tombe bien, parce que les organistes, il n'y en a pas des masses hein, aussi.
Il y en a beaucoup moins que d'autres instrumentistes, mais voilà. Souvent, on pense qu'il n'y a vraiment pas d'organistes du tout, qu'il y en a juste un par ville ou quoi, mais il y a quand même un bon vivier d'organistes, surtout en France. On a de belles classes d'orgue, que ce soit à Paris, à Lyon, à Toulouse, qui est une ville très importante pour l'orgue. On a aussi beaucoup, beaucoup d'élèves organistes, donc c'est pas si rare que ça. Mais évidemment, si on compare au nombre de gens qui jouent du piano ou du violon, c'est sûr que c'est beaucoup moins.
Ça fait plus de bruit aussi, l'orgue. On s'en rend peut-être plus compte quand on l'entend.
Oui, alors j'ai parlé de la première partie de cette masterclass, donc qui est un peu ouverte à tous, donc tous ceux qui veulent essayer l'instrument, quel que soit leur niveau, et on va voir comment est-ce qu'on peut adapter les musiques qu'ils ont préparées à l'instrument. Et puis il y a une deuxième partie que j'ai pensé plus adresser à ceux qui sont déjà organistes. C'est une partie qui est organisée autour de la musique des compositrices pour l'orgue. Parce que ça, c'est aussi une chose importante, c'est que il y a dans la musique des compositeurs et des interprètes qui sont très connus, mais qui sont systématiquement des hommes. Et à l'orgue, en fait, il y a eu aussi beaucoup de femmes qui ont composé et joué à l'orgue et qui sont maintenant très peu connues, mais on est en train de les redécouvrir. Et donc, j'ai voulu inciter, dans cette partie qui sera donc l'après-midi du samedi 15 novembre, j'ai voulu inciter les élèves organistes à découvrir le répertoire des femmes qui ont composé pour l'orgue. C'est une chose très intéressante de voir l'histoire des femmes à l'orgue, et aussi une chose très étonnante. On trouve très tôt, dès le début du 19e siècle, des sources qui demandent à ce que des femmes intègrent le conservatoire à Paris, la classe d'orgue. Alors pour des raisons tout à fait, j'allais dire, comiques, il est dit dans les textes, alors c'est dommage, j'ai pas la référence, mais que les organistes ont trop grand penchant pour la bouteille et pour l'alcool, et que les femmes vont pouvoir les aider à réguler ce penchant-là. Alors c'est une raison totalement absurde, mais qui fait qu'il y a eu en fait assez tôt des femmes organistes et qui étaient donc à très haut niveau, c'est-à-dire au Conservatoire de Paris. Et une autre chose étonnante, c'est que dans le nombre de ces femmes compositrices pour orgue, on a des femmes qui étaient simples musiciennes, qui étaient compositrices, etc. Mais on a aussi beaucoup de femmes qui ont été des militantes féministes. Et ça, c'est vraiment, je trouve, étonnant. C'est pas quelque chose qu'on trouve forcément à d'autres instruments. J'ai quelques noms que j'ai trouvés en préparant cet événement. Il y a Hortense Wilde en France. Donc, c'est des personnes qui étaient plutôt à la fin du 19e, début 20e. Donc, Hortense Wilde en France, Ethel Smith au Royaume-Uni, ou Elfrida André en Suède, dont je jouerai le soir au concert un extrait d'une symphonie pour orgue. Et donc, cette Elfrida André, elle est à l'origine de plusieurs lois féministes en Suède.
Le concert donc, où vous allez nous présenter toutes ces femmes féministes organistes sera donné avec une flûtiste.
Tout à fait. J'ai voulu en fait proposer un programme de concert qui serait une espèce de synthèse des deux parties de la journée. Donc une première partie sur tout ce qui est transcription, adaptation de musique à l'orgue. C'est pour cette raison qu'on va faire notamment avec la flûtiste une transcription du Prélude de l'après-midi d'un faune de Debussy, qui est une œuvre magnifique pour orchestre, très connue. L'autre chose, c'est on va mettre en valeur la musique des compositrices pour orgue. Donc là, il y aura quelques pièces d'orgue solo quand même pour entendre ce dont sont capables ces femmes compositrices avec l'orgue. Et puis, il y aura aussi des musiques composées par ces femmes, soit pour l'orchestre, soit pour le piano et un autre instrument, et en l'occurrence la flûte, et que nous adapterons avec mon amie Anaïs Jodon, donc flûtiste qui viendra cette fois-ci de Paris.
Est-ce qu'on parle tarifs et inscriptions pour la masterclass et pour le concert, donc pour les masterclass et pour le concert?
Alors, le niveau des tarifs, c'est très simple, c'est totalement gratuit. Il faut simplement que vous soyez d'une structure qui est affiliée à TGAC pour les cours. Donc ça concerne ceux qui font partie de l'école de musique, et ceux qui sont étudiants, élèves dans différents conservatoires ou écoles de musique du département. Sinon, je crois qu'il y a un tarif de 10 euros pour assister à la journée de cours, pour ceux qui seraient étrangers à ces structures-là. Et puis le concert le soir, c'est gratuit aussi complètement, puisque le concert est financé par le Pays Midi-Quercy.
C'est ce samedi 15 avec vous. Gilles, est-ce que, avant de se quitter, on peut se demander qu'est-ce qui vous a poussé dans les bras de l'orgue? C'est pas commun quand même, hein?
Je suis venu dans les bras de l'orgue d'une façon très, très normale pour un organiste. C'est que moi, j'allais beaucoup à l'église, à la messe, et puis j'ai découvert cet instrument chez moi, parce qu'il n'y avait pas d'orgue chez moi. Et un jour, on a installé un orgue chez moi. Et je faisais un peu de piano, mais ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et quand j'ai entendu l'orgue, ben là, ça a tout de suite piqué ma curiosité. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à cet instrument. Et puis j'ai découvert un univers qui était beaucoup plus vaste que ce que je pensais au départ.
Ouais, c'est un univers, l'orgue, de pas la pluralité des sons, de tous les mouvements de son propre corps qu'on doit utiliser pour essayer de sortir quelque chose d'à peu près juste. Et puis par l'instrument lui-même qui est assez incroyable.
Tout à fait. Parfois, c'est vu un peu comme un monde à part, l'orgue, avec des gens qui sont très, très férus de leur instrument, très connaisseurs, mais qui ont du mal à s'ouvrir aux autres. Et j'aimerais vraiment, avec cet événement, que l'orgue s'ouvre aux autres, comme je l'ai dit, à tous les musiciens qui ne jouent pas d'orgue, qui ne connaissent pas l'orgue, qui viennent découvrir, justement, et prendre beaucoup de plaisir avec cet instrument qui est la propriété de tout le monde.
Inscrivez-vous auprès de Tarn-et-Garonne Agriculture pour ces masterclass, donc ce samedi, pour les débutants, pour les confirmés. Venez dans tous les cas au concert le soir. On vous retrouve là-bas. Gilles Vessière, organiste donc, et
oui,
professeur de musicologie à Toulouse.
Et j'ajoute une dernière ouais, chose que j'ai oubliée. Il y aura avant le concert de 18h30, pardon, à 18h, une petite restitution pour tous les élèves qui auront participé à la masterclass et qui ont envie de jouer dans une audition publique les morceaux qu'ils auront travaillés.
Je pensais que vous alliez dire apéro.
Ça pourrait être bien aussi, mais on ne peut pas tout faire à la fois.
Comme à l'époque, il paraît que vous avez un penchant pour la bouteille. Merci beaucoup Gilles, à samedi.
Merci Lisa.
Alors, c'était pas Gilles Vessière aux manettes, mais c'était de l'orgue que vous entendiez sur CFM Radio pour illustrer la masterclass qui est proposée ce samedi 15 par TGAC, Tarn-et-Garonne Art et Culture, en partenariat avec le Pays d'Art et d'Histoire Médicercy et les amis de l'orgue Puget de Saint-Antonin. Masterclass ouverte à tous et gratuite, animée par Gilles Vessière.
CFM Kélus, le mag.
Direction Bruniquel dans ce mag. Ou à l'occasion de l'aménagement de son nouvel office de tourisme, la Comcom a eu la bonne idée d'intégrer une exposition permanente qui retrace l'histoire de Bruniquel à travers les âges de la préhistoire à nos jours. C'est Carole Stanicki qui va tout nous dire. Bonjour Carole.
Bonjour.
Vous faites partie du service inventaire du patrimoine du Pays du Médicercy, puisque c'est une exposition qui a été réalisée en collaboration avec tout un tas de partenaires.
Ah bah absolument, c'est vraiment le cas de le dire. On était très nombreux sur cette exposition-là. En effet, donc portée par la communauté de communes et Sandy Vonck et Christiane Soulier, la maire de Bruniquel. Une exposition a été décidée là, pour être intégrée à ce nouvel aménagement. Et il a été décidé de la concevoir comme une frise chronologique. Donc en effet, qui part des premiers temps, de la préhistoire, parce qu'il y a quand même 175 000 années d'histoire maintenant à Bruniquel. Et donc de la préhistoire, de la partie médiévale, la partie moderne, enfin ce qu'on appelle l'époque moderne, c'est du 16e au 19e siècle, donc la partie surtout industrielle de Bruniquel, qui est quand même conséquente et on a souhaité en parler également, et jusqu'à aujourd'hui. En évoquant les artistes qui ont valorisé ce village. Donc voilà, l'idée première qui s'est décidée à plusieurs, puisque il y a eu Claire Simonet de CAS Design qui est scénographe, il y a eu également Magali Farjas qui est muséographe qui a travaillé sur le projet et puis financé par l'État, le département et la communauté de communes. Mais on a également fait appel à des prestataires pour le mobilier, pour la scénographie. Enfin, c'est vraiment un travail collectif et qui est quand même relativement bien abouti, je trouve, puisqu'il y a plusieurs supports. Alors visuels, bien sûr, il y a beaucoup d'archives. En effet, les archives départementales font aussi partie des partenaires. Qui étaient vraiment des partenaires essentiels, hein, puisqu'ils ont fourni toute la matière. Il y a dans l'exposition des reproductions de cartes anciennes du 18e, du 19e. Il y a des plans aussi anciens, des anciennes forges et usines à chaux de Bruniquel. Il y a aussi des images d'archives du 14e siècle. Et là, c'est assez génial, l'idée du cabinet Bixi à Toulouse. Ils ont eu l'idée de reproduire une archive du 14e siècle, donc à partir d'une photo qu'on leur avait fournie via les archives départementales. Ils ont reproduit cette archive à tel point que quand on a visité l'exposition pour la première fois, et ben on a failli tomber dans le panneau. On s'est dit, mais enfin, comment ils ont pu récupérer cette archive? Même le directeur des archives, Jérôme Kras, il m'a dit, attendez, mais on n'a jamais prêté d'archives, qu'est-ce que c'est? Et en fait, la reproduction est vraiment de qualité. Ils ont reproduit le parchemin abîmé, vieilli. Donc non, franchement, c'est de qualité. Voilà, donc il y a cette archive, entre autres. Il y a des reproductions de tableaux aussi. C'est un travail qui s'est mené sur le long terme, parce que pour aller chercher ces tableaux, il a fallu rencontrer des collectionneurs privés, des descendants du peintre Ramey. Il a fallu aller aussi à Montricou chez Diego Lara, qui est un collectionneur qui tient la Villa des Peintres à Montricou, qui a un grand nombre de peintres qui ont reproduit le village de Bruniquel. Donc on est allé avec des photographes de l'inventaire pour reproduire ces images et les intégrer dans l'exposition. Donc c'est quand même quelque chose d'assez complet. Et il y a aussi, j'y pense, on avait aussi engagé une campagne de prise de vue par drone. Parce que, notamment pour illustrer le lavoir de Bruniquel, celui qui est en contrebas, qui a une forme de fer à cheval là, qui est assez magnifique, là, du 18e siècle, eh bien, pour appréhender cet ensemble de lavoirs qui a à la fois une fontaine, un abreuvoir, un lavoir et un pédiluve en fer à cheval, on a décidé de le prendre en drone. Donc en élevant le drone à, aller, je ne sais pas, peut-être 100 mètres ou un peu moins du lavoir, comme ça on avait une vue en top qui était assez intéressante et qui figure également dans l'exposition. Vous voyez, c'est quelque chose qui est assez global, qui englobe une très large partie chronologique, donc c'était pas une mince affaire cette exposition, mais le résultat est assez satisfaisant. J'espère que les habitants et les touristes prendront plaisir à rentrer dans ce nouvel office de tourisme.
Nouvel office de tourisme, oui, et puis vous avez mentionné la date, 176 000 ans, il me semble que c'est justement la date à laquelle ont été repoussées les limites historiques de la présence de l'homme de Néandertal en milieu souterrain profond, justement dans la grotte de Bruniquel. Vous ne pouviez pas passer à côté.
Exactement, c'est le début de l'exposition.
Et donc une exposition sous forme de frise qui court tout au long des très beaux murs en pierre donc, de cette nouvel office de tourisme.
Oui, parce qu'en effet, le parti architectural, c'est Brice Meyerat, l'architecte qui a travaillé sur ce projet, a été de laisser une partie des murs apparents pour qu'on voit le matériau, parce qu'on est dans l'ancienne halle et mairie du 19e, du début du 19e à Bruniquel. Donc dans la partie rez-de-chaussée, c'était une halle, un marché couvert, et au-dessus, c'était la mairie. Et donc, elle était en pierre, comme l'essentiel du village de Bruniquel. Donc voilà, le choix a été de la laisser, cette pierre apparente, sur une partie des murs. Et c'est là que la frise démarre, voilà, pour la partie préhistoire et médiévale, sur la terre, et ensuite elle court sur un mur qui est enduit de l'autre côté. Et associé à cette frise chronologique qui est vraiment très illustrée, il y a aussi des vidéos. Mmh. Il y a plusieurs vidéos, donc il y a une grosse borne vidéo dans un coin de l'office de tourisme, enfin dans un coin non, parce qu'elle est plutôt bien mise en valeur. Et dans cette borne, eh bien, vous avez accès à plusieurs vidéos qui sont également faites de manière chronologique, et donc préhistoire, époque médiévale, époque classique et contemporaine. Et là, c'est élargi au reste du patrimoine de la communauté de communes. Voilà, on part de Bruniquel, mais vous verrez également le patrimoine des alentours.
Et on suit des personnages ?
Absolument, dans la frise, il a été pensé, et c'est une idée qui est assez chouette, je trouve, d'avoir des accroches via des personnages. Donc en fait, c'est l'homme de Néandertal pour la préhistoire, c'est une lavandière pour la partie du XVIIIe siècle, parce que voilà, on voulait aussi la parité, et puis rendre compte aussi des petits métiers. Donc il y a aussi un paysan comme personnage. Pour la partie du XIXe siècle, c'est Jean-Baptiste Garrigou, qui est le fondateur des forges de Bruniquel. Et puis Henri Ramet, comme artiste pour la partie plus récente. Et ces personnages, dans cette frise, sont remarquablement bien dessinés par l'entreprise Bixis, justement, qui s'est occupée de faire ces dessins. Donc c'est vrai que c'est assez visuel, puisque l'accroche se fait par des dessins accrochés au mur, en plus des documents d'archives et documents figurés qu'il y a dans l'exposition.
Vous pourrez voir l'exposition Bruniquel à travers les âges en poussant la porte de l'office de tourisme du village lors de ses horaires d'ouverture. Une exposition qui a été créée notamment par Carole Stanikis du service inventaire du patrimoine du Pays Midi-Quercy. Merci Carole.
Merci.
Et merci à tous de nous avoir suivis tout au long de ce MAG qui sera à retrouver en podcast sur le site de cfmradio.fr. Il sera bien rediffusé à 21h, mais pas à 18h parce qu'on sera à ce moment-là en direct depuis Montauban pour un événement organisé par la Confédération des petites et moyennes entreprises de Tarn-et-Garonne. Un événement consacré à la santé de l'entreprise au complexe Marie-Louise à Montauban, donc avec au menu des ateliers pratiques, des conférences, des conseils d'experts et donc un plateau CFM Radio pour vous faire vivre cet événement. Vous retrouverez après les infos Rémi Torella pour la suite du MAG.